monter un spectacle autour de la personne de Jésus. Et dans ce spectacle, il y a le comédien qui jouait Jésus sur la scène, et il se déplaçait avec les 12 disciples. Et le fait de le voir en réel, c'était 12 hommes, donc c'était assez masculin quand même. C'était quand même un groupe assez bruyant, assez... Enfin, disons que ça m'a évoqué plein d'occasions de confrontation, de conflits peut-être, et ça m'a fait réaliser que c'était pas rien déjà de se déplacer avec 12 hommes, et puis que Jésus avait eu quand même beaucoup beaucoup de patience, tact, pour se laisser accompagner par ces 12 hommes. Alors, quand ce récit arrive dans l'évangile de Marc, Jésus précédemment a déjà choisi 5 disciples, dont certains sont frères. Il y a les 4 pêcheurs de poissons, donc Simon-Pierre, et André, et puis Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et puis le 5e, c'est le collecteur d'impôts. On nous dit qu'il est fils d'Alphée, et quand Jésus l'appelle, il se nomme Lévi, mais dans notre liste, Lévi a disparu. Alors, est-ce l'autre fils d'Alphée qui s'appelle Jacques, ou bien Matthieu qui est nommé un peu plus loin? En tout cas, on sent qu'il y a un mystère, il n'y a pas des exactitudes qui correspondent toujours parfaitement. On peut se demander si c'est une question d'interprétation des sources. En tout cas, les listes sont presque toutes les mêmes dans les évangiles, à une ou deux différences. Et puis derrière chaque nom, il y a un homme appelé avec son histoire. Mais Jésus, vous avez entendu, il donne à 3 d'entre eux des surnoms. Simon, il le nomme Pierre. Donc le mot grec, c'est Pétros. Et en fait, c'est la traduction d'un mot hébreu qui se dit Képha ou Sépha. Des fois, dans la manière dont Paul nomme Pierre, il le nomme Asie. Mais il l'appelle souvent Céphas. Et Céphas, ça veut dire le roc, le rocher. Et du coup, c'est vrai qu'on sait que la personne de Pierre est souvent le porte-parole du groupe. On l'a vu encore dans notre partage biblique de mardi dernier. Et Pierre aura évidemment un rôle majeur dans la première église. Donc Jésus nomme, il surnomme Jacques et Jean, donc les fils de Zébédée, fils du tonnerre. Alors ça, c'est assez étonnant. On ne sait pas trop pourquoi. Les exégètes se demandent si ce n'est pas une histoire de tempérament, parce que quand on regarde les différents passages où ils interviennent, ils sont assez, peut-être, tempétueux, je ne sais pas. En tout cas, Pierre, Jacques et Jean, ces 3-là, sont, on pourrait dire, la garde rapprochée de Jésus. Le premier cercle, c'est eux que Jésus prend avec lui, par exemple pour la guérison de la fille de Jaïros, ou bien pour la transfiguration et puis pour la prière au jardin de Gethsémané. Et puis, les autres disciples n'ont pas vraiment de rôle particulier. On a André, le frère de Pierre, qui parfois est accolé à ce petit groupe. Thomas est mis en scène dans l'évangile de Jean et est le symbole des personnes qui doutent. Et puis on a Judas Iscariote, qui est malheureusement inconnu de tous. Judas, dans l'évangile de Jean, il y a une précision, il est fils de Simon l'Iscariote, c'est-à-dire venant du village de Kérios. Et Judas est toujours avec son complément, celui qui livra Jésus ou celui qui l'a trahi. Dès le début, en fait, de l'évangile, on est au courant du drame qui va se jouer à la fin du ministère de Jésus. Pourtant, c'est bien Jésus qui l'a appelé, et Judas va le suivre toute sa vie, tout son ministère. Alors, on a ce début de passage où on nous dit que Jésus monte. Alors là, c'est une colline, moi j'ai une montagne. Il monte dans la montagne pour appeler ceux qu'il voulait. Donc, Jésus prend un lieu spécial. C'est pas rien de discerner les 12. Et du coup, la montagne est un lieu de d'inspiration, de rencontre avec Dieu, un lieu de prière. Et les 12 sont institués dans leur fonction. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres disciples à la suite de Jésus. On le voit par exemple dans les Actes des Apôtres, quand il faut choisir un remplaçant à Judas, l'apôtre dit, Pierre dit, il y a eu d'autres personnes, d'autres disciples qui ont suivi notre groupe, et du coup le sort tombe sur Matthias, qui va s'adjoindre au groupe des 12. Et puis, on voit aussi dans l'évangile de Luc que des femmes suivent Jésus. Mais 12, eh bien, c'est un chiffre symbolique, et il fallait ce chiffre symbolique. Ça vous rappelle peut-être des chiffres dans l'Ancien Testament, ça fait en tout cas un lien. On a les 12 tribus d'Israël, et ces 12 tribus, eh bien, forment l'unité du peuple. Une unité qui a été très malmenée et souvent idéalisée, mais en tout cas, elle fait sens pour les personnes qui accompagnent Jésus. Et là, eh bien, on a les 12 qui sont les témoins officiels du ministère de Jésus, des guérisons, et puis ensuite de sa mort et de sa résurrection. Et puis les 12 disciples, en fait, on va les appeler les apôtres, parce que apôtres, c'est ceux qui sont envoyés pour prêcher et libérer de tout mal. Alors Jésus donne trois buts, fonction pour l'appel de disciples. Et la première fonction, c'est d'être avec lui, simplement. Jésus choisit ces hommes, donc cette petite communauté, pour être avec lui et lui avec eux. Et je me suis dit, ça fait finalement écho à la parole de la Genèse, quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Alors bien sûr, on le voit dans d'autres passages, les hommes vont s'occuper aussi des contingences matérielles, la nourriture, la multiplication des pains, ils sont un peu démunis, il y a le logement, où est-ce qu'on va dormir. Mais la présence de chacun apporte encore autre chose, elle apporte une altérité en plus du soutien. L'altérité, c'est une confrontation avec la différence de l'autre. L'autre a des habitudes différentes, une culture qui n'est pas la mienne, un caractère qui ne me ressemble pas. Alors en général, on n'aime pas trop la confrontation. Elle peut mener à la compétition ou à la concurrence, parce qu'évidemment, les disciples sont comme tout le monde, hein, ils ont leur caractère, et on le voit, à plusieurs reprises, ils demandent, mais finalement, qui est le plus grand d'entre nous? Et à plusieurs reprises, Jésus les reprend en disant que ce n'est pas une bonne question. Si vous voulez être le plus fort et le plus important, il leur dit, soyez comme un enfant. Ou soyez le serviteur de tous. L'altérité, c'est aussi nous mettre au défi d'aimer l'autre. Et les communautés de religieux ou de religieuses nous le témoignent souvent. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils sont ensemble. Le frère ou la sœur à côté d'eux, il y a des personnes qui ne sont pas faciles à aimer pour eux au sein de la communauté. Mais même quand on n'est pas religieux ou religieuse, on sait que même au sein de l'Église, ça n'est pas toujours facile de s'aimer les uns les autres. Il n'est pas facile de donner de l'importance à chacun. Et pourtant, c'est bien au sein de l'Église que Dieu nous donne des frères et des sœurs, avec ce défi d'aimer, de ne pas s'ignorer et de se pardonner. Le lavement des pieds dans l'évangile de Jean apparaît comme un complément des autres évangiles, comme une précision pour dire que la communauté fraternelle s'édifie dans le service des uns aux autres. Alors on se rend compte dans ce texte que être avec les autres, c'est être avec Jésus. Et être avec Jésus, c'est être avec les autres. On ne peut pas être avec Jésus-Christ tout seul, parce que en se rapprochant de Jésus, on s'approche aussi des autres qu'il a appelés. Alors l'image de notre Sainte Cène me plaît bien pour en parler. Ce mouvement que nous faisons de nous rapprocher les uns des autres et de faire un grand cercle, que nous ne pouvons pas encore vivre ensemble. Nous avons hâte de retrouver cette configuration du grand cercle. et nous sommes à côté les uns des autres, ensemble. Être avec Jésus aujourd'hui, c'est créer un espace avec d'autres pour vivre sa présence. Et c'est cet espace que l'Église est venue organiser, c'est devenu une institution, avec des moments institués par Jésus lui-même, comme le baptême ou la Sainte-Seine, et l'enseignement aussi. Et finalement, vouloir croire tout seul dans son coin, eh bien, c'est ne pas vouloir être confronté aux autres. C'est confortable. J'en rencontre des personnes qui ne sont pas dans les églises, mais qui me disent « Non, mais je crois. » Ben oui, mais il manque quelque chose. Il manque l'autre. Parce qu'on se fait sa propre image de Dieu, sa propre image personnelle, et alors que croire avec d'autres, eh bien, c'est accepter cette rencontre avec quelqu'un qui est différent, et cela peut même être l'occasion de recevoir une nouvelle compréhension de Dieu. Cela peut me déplacer dans ma propre compréhension. Comme le dit le théologien Dietrich Bonhoeffer, dans l'Église, nous pouvons nous apporter mutuellement la bonne nouvelle du salut. Et du coup, notre foi est renforcée. Elle est soutenue par la foi des autres. À Montrouge, eh bien, c'est ce que nous avons vécu, par exemple, lors du témoignage d'Hector et Chéri Fatou, au moment où Chéri Fatou s'est fait baptiser en octobre. C'est un moment que nous gardons. La communauté est un lieu où je peux m'appuyer, où je peux trouver une sécurité, non pas affective, mais spirituelle. Un lieu où je peux être moi-même accueillie telle que je suis. Alors Jésus parle de deux autres fonctions, deux autres rôles pour les disciples. Celui de prêcher et celui de chasser les démons. Alors il était dans l'usage qu'un maître s'entoure de ses disciples, de disciples pour justement transmettre. C'est une responsabilité, ils vont être des témoins, des transmetteurs, non seulement de l'enseignement de Jésus, mais aussi, eh bien, de cet événement qui va être à l'origine de toute l'Église, qui est la résurrection de Jésus. Parce que Jean-Baptiste aussi est mort. Jean-Baptiste aussi avait des disciples. Jésus avait des disciples. Les disciples ont assisté à la mort de Jésus. Mais la résurrection, eh bien, c'est unique. Et du coup, les apôtres vont aller prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher, en effet, c'est annoncer cette bonne nouvelle de Jésus et de son amour. Et puis, il y a aussi chasser les démons, et la manière dont je le comprends, eh bien, c'est lutter contre tout ce qui asservit l'humain. C'est lutter contre toute forme d'oppression, d'enfermement. Et c'est une lutte que nous pouvons vivre aussi tous les jours, sans forcément avoir ces guérisons que Jésus fait, mais c'est des choses qui sont peut-être beaucoup plus, qui ont besoin de mûrir. Et puis de volonté et d'engagement, surtout dans des causes. Et du coup, les 12, eh bien, sont ensuite partis sur les routes, missionnés par Jésus dans tous les coins du monde. Et grâce à tous les apôtres qui ont été inspirés et appelés, nous pouvons aussi penser à l'apôtre Paul, la bonne nouvelle s'est transmise jusqu'à nous, aujourd'hui, 2000 ans après. Alors, à notre tour, nous avons à transmettre cette espérance qui dépasse tout ce qu'on peut vivre de dramatique. Nous sommes à notre tour des veilleurs au cœur du monde. Alors nous pouvons retenir une chose de ces fonctions que Jésus donne. Être avec lui, c'est une manière de prendre des forces. C'est ce que nous faisons ce matin au culte. Nous pouvons le rejoindre aussi dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans tout ce que nous vivons au culte, l'enseignement, la Sainte Cène. Mais de toute façon, être avec lui peut se faire en tout temps, en tout lieu, parce qu'il nous donne son Esprit Saint qui est sa présence. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que nous sommes en vous. Nous avons chacun, à notre mesure, chacune, à notre portée, des talents à faire fructifier. Nous avons à vivre au cœur du monde, à exercer notre intelligence pour faire reculer les dominations et les révéler au grand jour. Oui, attention que la communauté qui est nourrissante pour nous, mais ça ne doit pas être non plus Il ne faut pas qu'on s'arrête là, il ne faut pas qu'on reste dans ce confort-là. Nous devons aussi réfléchir à savoir ce que nous pouvons faire pour les autres, pour ceux qui ont soif d'espérance et soif d'une autre manière de vivre que ce que propose la société. Alors oui, Jésus a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous. Amen.